Baptême dans les eaux qui coulent. Le baptême, c'est une délivrance. C'est un rachat par Jésus-Christ pour son Père, Dieu créateur de toutes choses, Dieu saint. Par le baptême, Dieu rachète par le sacrifice de son Fils Jésus les enfants d'Adam afin de les adopter. Le baptême dans les eaux qui coulent est une cérémonie capitale pour sortir de la servitude du péché. Sans passer par cette cérémonie de baptême, personne ne peut recevoir la vie éternelle et voir Dieu. Le baptême est aussi une naissance, naître en tant qu'enfant de Dieu. Jean 1, 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 3, verset 3 et verset 7. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais avant de naître, il faut faire mourir le corps du péché. » Il y a deux actions dans la cérémonie de baptême. Il y a la mort du corps de péché, il y a la naissance du corps incorruptible, soumis à l'autorité de Dieu par son esprit. Tout cela par la foi. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Un homme qui a entendu la bonne nouvelle et qui a cru à cela, décide de porter le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Il doit d'abord mourir, c'est-à-dire ensevelir son corps du péché. Ce corps est emporté par les eaux. Ensuite, il doit ressusciter, c'est-à-dire sortir de l'eau avec un corps purifié, préparé pour recevoir l'Esprit d'adoption qui est l'Esprit du Fils. Romains 8, versets 15 et 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce corps devient le corps semblable à celui de Jésus, corps du Christ, destiné à faire la volonté de Dieu. Hébreux 10, versets 5, 6 et 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Maintenant, nous allons entrer en détail sur le baptême. Le baptême délivre de quoi ? L'homme, c'est-à-dire le premier homme, Adam, s'est mis en esclavage en obéissant à Satan. Quand on obéit à quelqu'un, on lui confie le pouvoir et l'autorité sur soi. Aussi, il t'assujettit, il te domine, tu deviens son esclave. Adam a donné son autorité et son pouvoir à Satan. Prenons Luc 4, versets 5 à 7. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Adam a refusé de fusionner avec Dieu, le cultiver et le garder. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Voilà l'ordonnance de Dieu à Adam, c'est-à-dire l'alliance entre Dieu et sa créature Adam. Genèse 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Adam devait mettre en pratique cette ordonnance de Dieu son créateur, mais il a préféré désobéir et faire le contraire. Genèse 3, versets de 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Que veut dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est tout simplement la puissance créatrice de Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Adam et sa femme ayant touché à cet arbre de création, sans l'autorisation de Dieu créateur, ils sont tous deux devenus des créateurs comme les autres. Car cet arbre, c'est Dieu qui ordonne quand est-ce qu'il faut en manger. Le Saint-Esprit, c'est Dieu seul qui le donne. Genèse 3, nous allons voir les versets de 9 à 13 et aussi les versets de 17 à 19. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Par la désobéissance, Adam a cultivé la mort. Il peut créer, mais il n'aura pas la vie éternelle. Genèse 3, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Les enfants qui naîtront d'Adam ne seront pas à l'image de Dieu, mais d'Adam, c'est-à-dire à sa propre image de pécheur et mortel. Genèse 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La mort a frappé tous les descendants d'Adam. Ils sont tous devenus des esclaves, assujettis et dominés par Satan, le roi de ce monde charnel. Mais personne ne peut rendre le plan de Dieu obscur. Dieu a créé l'homme pour être à son image, faire de l'homme son enfant, et que cet enfant soit le temple de son esprit, car Dieu est esprit. Pour arriver à réaliser cela, Dieu doit sacrifier son Fils unique. Ainsi, son Fils prendra la mort qui frappe le Fils d'Adam, c'est-à-dire le corps du péché, et le détruire sur la croix, et ainsi libérer le Fils d'Adam, pour pouvoir l'adopter pour son Père, Dieu le Saint. C'est par le baptême que ce processus doit s'accomplir. Le Seigneur a donné l'exemple de l'accomplissement de cette cérémonie. Marc 1, versets 9 à 11. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles : « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Par le baptême, l'enfant d'Adam n'est plus responsable du péché de ses parents. Il n'est plus lié par le comportement de ses parents, c'est-à-dire d'Adam et Ève. Ézéchiel 18, versets 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël ? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La première délivrance pour le croyant chrétien, c'est d'abord de ne plus être lié par la vie de ses parents. Il est libre. Deuxième avantage pour l'homme, c'est la réconciliation avec le Créateur Dieu le Père de Jésus-Christ. Troisième avantage pour l'homme, s'il persévère dans l'obéissance à la parole de Dieu, sans être un auditeur oublieux, il héritera le royaume et il sera à l'image de Jésus, l'image de son Père adoptif. Le baptême ne sauve pas, mais le baptême te rend libre et te met sur le chemin. C'est le baptisé qui doit apprendre à marcher devant son Dieu. Le baptême te met sur le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Prenons Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le baptisé, le croyant chrétien, doit marcher par la foi. Avoir la foi, c'est suivre et vivre la vie de Dieu à l'exemple de son Fils Jésus-Christ. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le vrai baptême, voici le bon déroulement. Le baptême doit se dérouler dans les eaux qui coulent. Comme exemple, rivière, fleuve, mer, lac. Le baptême ne doit pas se passer dans une piscine, ni dans une baignoire, moins encore quelques gouttes d'eau sur la tête. C'est par immersion, c'est-à-dire tout le corps sous l'eau, dans les eaux qui coulent. C'est très important, les eaux qui coulent. Voici les trois positions de la cérémonie de baptême. Première position, debout. Cette position est une position de se connaître pécheur. Deuxième position, immersion dans l'eau. Ensevelir le corps du péché, la mort. Dépouillement de tous les esprits de la servitude. Ces esprits seront coulés, et envoyé dans les abîmes vers la mer. Matthieu 8, versets 31 et 32. Les démons priaient Jésus, disant « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Michée 7, verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. C'est l'illustration de dépouillement du corps de péché, de tous les esprits qui le dominaient et l'assujettissaient en servitude, l'esclavage. Ils doivent être coulés vers la mer dans les abîmes. Troisième position. Après le dépouillement et l'écoulement des esprits, le corps purifié sort de l'eau. C'est la résurrection. Le corps purifié est préparé pour recevoir l'esprit d'adoption, l'esprit du Fils de Dieu. Le corps devient le corps du Christ. Tout cela est activé par la croyance et la foi. Marc 1, versets 10 et 11. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Le Père le reconnaît comme son Fils. Romains 8, versets 15 et 16. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » À partir de ce moment, le croyant chrétien qui porte le nom de Jésus, habillé du Christ, la parole de Dieu, avec l'esprit comme soulier de marche, peut maintenant emprunter le chemin. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Après avoir reçu le baptême de dépouillement, c'est-à-dire de la délivrance du péché, suivi du baptême de l'esprit d'adoption qui fait de lui enfant de Dieu, le croyant chrétien, enfant adoptif et frère de Jésus, va se mettre en marche, ce qui est le baptême du feu. Ce baptême le conduit vers le perfectionnement et la sainteté à l'image de son frère Jésus-Christ. Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ce baptême du feu dure toute la vie sur terre d'un croyant chrétien. Il a, ce croyant chrétien, les fruits de l'Esprit de Dieu ou les œuvres de la foi qu'il doit exercer toute la durée de son séjour sur la terre. Voici les fruits que le croyant chrétien doit se nourrir. La tolérance, la maîtrise de soi, le pardon, la patience, la vérité, la justice, la paix, tous dans un amour d'un cœur pur. 1 Timothée 1, verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Cœur pur, conscience parfaite, une foi sincère et d'une obéissance par l'amour pour notre Dieu et notre Père, par Jésus-Christ. Le baptême qui se déroule dans les piscines, baignoires, quelques gouttes sur la tête, ne délivre pas un homme des esprits de la servitude. Ils iront où, ces esprits de la servitude ? Ils sont toujours là. En sortant de ces récipients, vous sortez avec eux. Le soi-disant baptisé est toujours sous l'emprise des esprits. Et comme l'Esprit de Dieu ne partage pas sa gloire, écoutons 1 Samuel 5, dans les versets de 1 à 12. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins. Et ils dirent « Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël ?» Les princes répondirent « Que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. » Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été portée, la main de l'Éternel fut sur la ville. Et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le plus petit jusqu'au grand. Et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant « On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins. Et ils dirent « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Cette histoire est semblable à la vie de ceux qui ne sont pas véritablement baptisés selon l'exemple donné par le Seigneur Jésus. Marc 1, 9 à 11. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Voilà pour cet enseignement sur le baptême qui est très important, frères et sœurs en Christ. Et si nous devons en tirer une conclusion, ce serait celle de l'obéissance à la parole de Dieu. Ici, le sujet de cet audio est le baptême dans les eaux qui coulent. Et nous venons d'écouter l'exemple donné par le Seigneur Jésus dans Marc 1, versets de 9 à 11. Seulement, il y aurait une question. D'ailleurs, vous aussi, vous le savez bien, vous avez la possibilité sur le site enamorat.com de poser toutes les questions que vous désirez poser, entre autres celles que vous avez sur le cœur. Alors voilà, la question pour notre part est « Allons-nous obéir à Jésus ?» Jésus, lui, qui est le chemin, la vérité et la vie, avant de sortir de l'eau avec un corps purifié, préparé pour recevoir l'esprit d'adoption, qui est l'esprit du Fils, nous allons terminer avec ce dernier passage tiré des Écritures Saintes. Prenons Romains 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Frères et sœurs, amis du Christ, que le Seigneur vous garde. Gloire à Dieu.